Bonjour et bienvenue. Alors aujourd'hui, on a entre les mains un document assez unique.
Oui, vraiment particulier.
C'est le bulletin numéro 68 du Cartoclub Aveyronnais qui date de janvier 2018. Et ce n'est pas un bulletin ordinaire.
Non, pas du tout. Il est presque entièrement consacré à un seul lieu, Sainte-Geneviève-sur-Argence. Et tout ça, c'est le travail d'un seul homme, Bernard Clermont. Un historien et un collectionneur de cartes postales. C'est cette double casquette qui fait toute la richesse du document.
Exactement. Et notre objectif aujourd'hui, c'est de voir comment une collection de cartes postales, ben, ça peut raconter l'histoire d'un village sur un cycle.
Ses transformations, la vie des gens.
Voilà. Et il faut aussi saluer le travail de Guy Mazard pour la mise en page. C'est d'une clarté incroyable.
Oui, tout à fait. Et ce qui est puissant, c'est que ça nous fait voir ces cartes différemment. Ce ne sont plus juste de vieux souvenirs un peu jaunis.
Non, ce sont des archives.
Ce sont des archives visuelles brutes. Elles ont été prises entre 1900 et 1970 et elles capturent un monde qui était en train de basculer, celui des artisans, des paysans de la Viadaine.
C'est une fenêtre sur un monde disparu.
Voilà. Et une fenêtre sans filtre, sans mise en scène. C'est ça qui est précieux.
Alors, entrons dans le vif du sujet. Ce qui me frappe tout de suite, c'est que les photographes derrière ces images, ce sont des gens du coin.
Oui.
Le bulletin en met trois en avant, Césarien Domerge, Marius Volpelier, et puis surtout, celui qui est vraiment mis en valeur, c'est René Charbonnier.
Et tous les trois, ils partageaient un métier. Oui, c'est ça qui est étonnant. Ils étaient horlogers-bijoutiers. Et ce n'est pas un hasard. En fait, c'est très logique pour l'époque.
Ah oui. Bah oui, l'horlogerie et la photo, c'était deux disciplines nouvelles qui demandaient la même chose, de la précision mécanique, presque chirurgicale, et des connaissances en chimie. L'horloger était souvent le seul à avoir cette double compétence dans un village.
Exactement. Mais Charbonnier, lui, il ajoute quelque chose en plus. Le butin parle de poésie.
Oui, ces clichés sont... Ils ont une âme. La composition, la lumière.
C'est plus que ça, je crois. En choisissant quoi photographier et comment le cadrer, il ne faisait pas que documenter. Il construisait l'imaginaire du village.
C'est une excellente analyse. Il ne montre pas seulement. Il valorise.
C'est ça.
Il disait aux gens, voici ce qui est important chez nous. Voici ce qui est beau. C'est un acte de création d'identité. On le voit très bien sur la carte du monument aux morts, qui est d'une sobriété poignante. On apprend même que son travail a servi de modèle à d'autres, comme le dessinateur André Bézard. C'est dire son influence.
Tout à fait. Il a fixé l'image de la région. Et ces images sont d'autant plus précieuses qu'elles ont immortalisé des choses qui allaient disparaître.
Oui, et parfois de façon assez brutale. L'exemple le plus spectaculaire, c'est celui de l'église du village.
Ah, l'église ? C'est un cas d'école.
Les cartes postales nous montrent l'ancienne église, un mélange de roman et de gothique, qu'on décide de démolir, purement et simplement en 1903.
Ah oui.
C'est impensable aujourd'hui, non?
Totalement impensable.
Et le bulletin publie des clichés de la démolition pierre par pierre. Il y en a une où on voit des hommes qui emportent la grande cloche sur un chariot. C'est la fin d'un monde en une seule photo.
Ça nous paraît surréaliste, mais ça révèle parfaitement la mentalité du début du XXe siècle. L'idée de patrimoine telle qu'on la conçoit, ça n'existait pas.
On voulait faire du neuf.
On était persuadé de pouvoir mieux faire. Le progrès était la valeur suprême. Donc on a rasé l'ancienne église pour en bâtir une nouvelle, néo-gothique, en changeant même son orientation pour tout réaménager.
On faisait table rase.
Et cette transformation, elle ne s'arrête pas au bâtiment. Il y a une photo de 1937 qui montre le goudronnage de la place des Tilleuls.
Oui, et sur les cartes plus anciennes, c'est de la terre battue.
C'est ça. On voit des bœufs, des moutons les jours de foire. Et d'un coup, l'asphalte arrive. Et ce détail, il dit tout. Le goudron, c'est la fin du monde paysan. Et le début de l'ère de l'automobile. On ne pense plus à la bête, on pense aux pneus.
La place change de fonction.
Radicalement. Elle passe d'un lieu de marché agricole à un espace de circulation. Le bruit, l'odeur, tout change.
Et au milieu de tout ça, il y a les gens. Bernard Clermont a sélectionné des cartes incroyables de Marius Volpelier en plein milieu des foires.
Ah oui, on est plongé dedans.
On voit les troupeaux de moutons sur la place, les paysans qui négocient. C'est toute une économie qui s'anime. Et puis, au détour d'une page, on tombe sur une anecdote. Un truc de fou.
L'histoire avec Utrillo.
Oui, le peintre Maurice Utrillo qui aurait peint Sainte-Geneviève sous la neige depuis Montmartre.
Sans jamais y avoir mis les pieds.
Voilà. Juste en regardant une carte postale. Et tout ça pour régler une note de restaurant à une patronne de bistrot qui venait du village.
C'est une histoire formidable. Et c'est bien plus qu'une anecdote. Ça en dit long sur le lien incroyable entre Sainte-Geneviève et Paris.
Ce n'était pas une coïncidence de croiser quelqu'un du pays à Paris?
Pas du tout, c'était la norme. Le bulletin explique très bien le parcours de ces bougnats, ces Aveyronnais, qui montaient à la capitale pour être livreurs de charbon ou cafetiers. C'était une vraie diaspora. Si organisée que l'Amicale de Sainte-Geneviève, créée en 1900, a été la toute première amicale aveyronnaise.
Et l'argent gagné à Paris revenait au pays.
Oui, il revenait et il se transformait en pierre. Le bulletin montre très bien ces maisons à la parisienne qui se construisent.
Avec leurs toits en mansarde, si différents des bâtisses traditionnelles.
Ce n'était pas qu'une question de style. C'était un marqueur social, la preuve gravée dans la pierre qu'on avait réussi à Paris. Ça affichait un statut.
Et ça a dû changer les dynamiques au sein du village.
Bien sûr, entre ceux qui étaient partis et ceux qui étaient restés. Le succès parisien redessinait le paysage natal.
C'est fascinant. Et pour finir ce tableau de la vie quotidienne, le bulletin n'oublie pas les loisirs. Il y a la pêche, bien sûr.
La passion de René Charbonnier lui-même. Mmh. Oui, et surtout, le sport roi de la commune, le jeu de quilles. Les cartes postales immortalisent des parties endiablées. C'était le grand rendez-vous social. Mais toutes ces transformations, que ce soit l'église, les maisons, ça n'aurait pas été possible si le village était resté isolé.
Enclavé, oui. Et pendant des siècles, le grand obstacle, c'était cette rivière sauvage, la Truyère.
Absolument. Avant les ponts, sa traversée était une aventure.
Oui, il fallait utiliser des barques à fond plat et se tirer le long d'une chaîne tendue entre les rives, une cadenne en occitan.
D'où le nom du lieu, le pont de la cadenne.
Exactement. La construction des ponts successifs a été une saga. Un premier pont est emporté par une crue, on en reconstruit un autre sous Napoléon III, beaucoup plus spectaculaire.
Et cet ouvrage est devenu une attraction touristique.
Oui, il a fait l'objet de dizaines de cartes postales. C'était un symbole de fierté, la victoire de l'homme sur la nature.
Et une fois le fleuve dompté, la voie était ouverte, on voit l'évolution des transports sur les cartes.
On passe des diligences à cheval au vapobus, un autobus à vapeur.
Imaginez la scène. Cet engin qui mettait 6 heures pour faire 60 km jusqu'à Aurillac.
Et puis viennent les premiers carrés essence qu'on voit peiner dans la côte, chargés de bagages jusqu'au toit. Le désenclavement est en marche.
Mais le vrai basculement, le choc, c'est dans les années 30.
Les grands travaux de la Truyère, la construction des barrages hydroélectriques et surtout celui de Sarance. Les photos du chantier sont titanesque.
C'est une révolution industrielle qui s'abat sur une région jusque-là très rurale. Imaginez le choc culturel. On passe d'un monde où tout le monde se connaît à un chantier international.
Avec des milliers d'ouvriers.
Des Italiens, des Espagnols, des Polonais, des Portugais. Le bruit des marteaux-piqueurs remplace le son des cloches des vaches. On entend de nouvelles langues dans les cafés.
Et il y a le danger. Le coût humain est très présent. Il y a cette photo très forte du cimetière de Ruyère avec les tombes des ouvriers morts sur le chantier.
Cette photo, ce n'est pas une anecdote, c'est le prix de la modernité. Mais en contrepartie, ce chantier a apporté une manne financière énorme à la commune.
Grâce aux taxes, oui.
Il a créé une nouvelle vague de tourisme et il a durablement changé la démographie. La région a été transformée pour toujours.
Alors, au terme de cette exploration, qu'est-ce qu'on retient ? Pour moi, c'est la démonstration éclatante qu'une collection de cartes postales, guidée par un historien passionné comme Bernard Clermont, devient une chronique incroyablement riche.
Oui, c'est un travail de mémoire collective remarquable.
On a vu un territoire passer d'un monde rural quasi autarcique à la modernité, avec ses espoirs et ses drames.
J'ajouterai une dernière chose. Ce bulletin montre que l'histoire, la grande histoire, elle est aussi tissée d'une multitude de petites histoires. Une partie de quille, une lessive qui sèche.
Ces moments du quotidien.
Voilà. Et le rôle des photographes comme René Charbonnier a été fondamental. En choisissant ce qu'ils montraient, ils n'étaient pas des observateurs passifs. Ils ont forgé l'identité visuelle de leur territoire. Ils ont appris aux gens à regarder leur propre monde et à en être fiers.
C'est une magnifique conclusion. Et ça nous laisse avec une dernière pensée pour aujourd'hui. Ces cartes postales, c'était des images choisies avec soin qu'on envoyait pour représenter un lieu.
Un moment précis. À notre époque, à l'ère du numérique, du scroll infini, où on prend des milliers de photos qu'on ne revoit parfois jamais, on peut se demander qu'est-ce qui va rester ? Quelles sont les images qui raconteront vraiment notre époque aux historiens de demain ?